Bienvenue à toi dans Silence, ça entreprend. Je suis William Sadrin de l'association d'entrepreneurs IoT Valley, l'écosystème toulousain de référence dans l'accompagnement des startups B2B qui innovent avec la data. Dans ce podcast offert par l'IoT Valley, je passe une heure en compagnie d'un invité qui envoie du lourd, un chef d'entreprise, un investisseur ou un expert reconnu, venu te partager son expérience et une multitude de conseils activables sur des thématiques variées. Tout ça bien sûr pour t'aider à avancer dans ton projet. Maintenant, place à ton épisode, n'hésite pas à t'installer confortablement, on va commencer.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Je m'appelle Arnaud Bessagnier, j'aide IoT Valley sur la partie interview. Je suis docteur en économie et mon travail c'est de tirer les verres du nez de nos invités. Aujourd'hui on reçoit Antoine. Bonjour Antoine.
Salut,
merci,
salut Arnaud.
Merci d'être venu et d'être là. Aujourd'hui on va pouvoir avoir un échange hyper constructif. L'objectif c'est, bon, j'ai vu que tu as pas mal de répondants donc on va pouvoir te secouer. Donc c'est aussi une
n'hésite
question.
N'hésite pas.
Donc pour la petite présentation, IoT Valley, assez succinctement, IoT Valley, ceux qui ne connaissent pas, c'est un écosystème entrepreneurial basé à Toulouse, vers la Bège. Il y a 50 entreprises qui sont présentes dans l'écosystème, 25, on va appeler ça des partenaires industriels, et l'objectif c'est d'apporter de la numérisation, enfin d'apporter des solutions d'optimisation à partir du numérique à ces entreprises-là, donc de faire la jonction entre start-up et grand compte. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour faire avancer cet écosystème entrepreneurial-là, il faut des pointures, il faut des gens qui viennent apporter du savoir, de la connaissance, du vécu. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ces formats meet-up, donc une heure, échange avec vous, puis des experts sur un sujet. Donc, Antoine Fraisse, entrepreneur multirécidiviste, investisseur également. Je fais tes faits d'armes, tu me dis si c'est assez complet et ensuite tu viendras compléter si ça te va.
Parfait.
Donc j'ai noté 6 ans en tant que COO, donc Operating Officer. Donc ça, c'est, l'idée c'est que tu faisais du sales des opérations. Tu avais 200 personnes plus ou moins en relation, enfin en tout cas sous ton commandement, ou en tout
c'est
cas
ça.
Qui bossaient avec toi.
C'est ça.
Ensuite tu as fondé Autium Capital. C'était les prémices des Startup Studios. Donc une idée, on réfléchit quelle est la meilleure solution pour pouvoir tacler le problème. Et derrière, tu faisais du recrutement. Donc, notamment, à cette époque-là, tu avais rencontré Stanislas de Doctolib, également Philippe de chez ManoMano, je crois.
C'est ça.
Et à cette époque-là aussi, tu avais fondé La Fourchette, donc The Fork, que tu as revendu quelques années plus tard à TripAdvisor. Et enfin, depuis 2015, donc, tu as une activité assez singulière. Tu as créé et aujourd'hui, tu es CEO de Kerala Ventures. Donc, ton objectif, c'est toujours la même chose, c'est être très, très opérationnel au tout début des boîtes, investir et créer les meilleures boîtes possibles dans la tech généralement. Est-ce que les faits d'armes sont OK? On va pouvoir citer des noms.
Non, les faits d'armes sont OK. Une petite précision sur La Fourchette, qui est quand on a lancé Autium avec Pierre-Edouard, le fondateur des Smartbox. On a acheté La Fourchette alors qu'ils avaient un an d'existence. Donc, on n'a pas lancé nous-mêmes. C'était tout petit, donc ça faisait quelques centaines de réservations par mois, mais ce serait un peu exagéré de dire qu'on l'a créé. En revanche, on peut dire qu'on l'a fait passer de 3 salariés à plus de 300 au moment où on l'a vendu à TripAdvisor. Donc, on a quand même été très opérationnel dans la société.
Yes.
Et ta définition des grandes lignes est tout à fait correcte.
Bon, donc voilà. C'est bon. Donc on a le profil d'Antoine. Et au-delà de tout ça, Antoine, donc, avec ces expériences de suivi, d'accompagnement, de passer de 3 à 300, aujourd'hui Doctolib c'était 3 à 2700, enfin, bref, toutes ces expériences de scaling, en fait, tu as développé une expertise assez unique dans le recrutement. Donc tu as écrit un livre à ce sujet, un ouvrage, donc Attirer les meilleurs, c'est la tagline de ton ouvrage. Donc on va vraiment aller dans le détail.
Très bien.
On va creuser et donc toutes les questions que vous posez sur le recrutement, etc. Moi j'ai une tablette, m'envoyez les questions dans le chat et je les pose directement à Antoine. Il n'y a pas de filtre et il est méga chaud. Donc on va rincer tout le monde. Déjà, est-ce que on pourrait commencer par pourquoi tu as écrit ce livre-là, juste pour te le pour
bien
le situer,
sûr, bien sûr, bien sûr.
Et on va pouvoir ensuite dérouler.
Bah. Donc moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je bosse et année après année, Et quelque chose qui est devenu de plus en plus évident pour moi, c'est que le sujet majeur dans la création des sociétés, dans le développement des sociétés, c'était pas vraiment comment on va faire, mais qui va faire. Et que le succès d'un business ou d'une entreprise, la raison numéro un de ce succès, c'était la qualité des femmes et des hommes de l'équipe, tout simplement. Donc la règle d'or du business, c'est si l'équipe est de très haut niveau, on pourra définir ensuite ce que c'est que d'être de très haut niveau,
exact.
Parce que c'est, mais en tout cas, si on a une très bonne équipe,
ouais.
Eh ben, on peut aller très loin. Si on a une équipe moyenne, eh ben, on a un succès moyen. Et si on a une équipe qui ne fait pas le job, eh ben, il est possible, probable qu'on se plante. Et ça, en fait, cette espèce d'analyse de dire, mais c'est d'abord les femmes et les hommes qui font le succès d'une entreprise, on est globalement tous assez d'accord pour le dire. Un peu à la manière d'une équipe de foot qui s'opposera à une autre équipe de foot.
Ouais.
Mais la manière dont on passe de la constatation de cette règle d'or, qui pour moi est la règle d'or du business numéro une, la manière dont on passe de cette constatation à son quotidien, en tant que manager, en tant que fondateur, en tant que personne qui recrute, ça par contre c'est une autre paire de manches. Comment très concrètement j'applique cette règle d'or et comment je m'assure au quotidien que j'ai la bonne approche, la bonne méthode pour vraiment recruter des très bons profils.
Okay.
Et ça, année après année, c'est devenu pour moi le sujet numéro un de réussite de toutes les entreprises dans lesquelles j'étais associé.
Ouais.
Et donc de plus en plus, mon métier, par volonté, parce que j'aime ça, hein, tout simplement, c'est aussi des très belles rencontres, le recrutement, c'est pas simplement des techniques. Du coup, c'est devenu mon axe de communication et de développement, entre guillemets, numéro un pour mes associés entrepreneurs. Alors, okay. Disons, si j'ai une chose sur laquelle je peux vous aider, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais s'il y en a une qui se détache, c'est comment on rehausse le niveau de recrutement des équipes.
Ok, parce qu'en plus, oui, j'ai oublié de le préciser, mais tu as été très opérationnel sur la stratégie, l'ensemble de nouveaux produits, on peut parler de performance, enfin, organiser les équipes également, mais ouais. Voilà, ton dada, ton sujet privilégié, c'est le recrutement. C'est quoi la différence entre une personne qui est, quand on veut recruter, tu disais, personne OK, cette personne est pas mal bien, et une personne excellente, meilleure. Donc, mm-hmm. C'est vraiment le sujet, mm-hmm. Je pense qu'on pourrait aborder, peut-être qu'on pourrait mettre au moins, délimiter le sujet, mm-hmm. Définir c'est quoi les meilleurs dans une entreprise. Est-ce que tu peux…
Oui, c'est un point qui est important parce que donc le livre s'appelle « La méthode pour recruter les meilleurs ». Il peut sembler très élitiste déjà dans son titre, ouais. Et il l'est en partie. Sauf que la définition du meilleur, ça c'est à chaque entrepreneur de décider. C'est-à-dire c'est pas le meilleur pour une entreprise, ou la meilleure,
ouais.
Ne sera pas nécessairement pour un poste équivalent dans une autre entreprise, le ou la meilleure. Parce okay. que c'est à chacun de décider sa voie. Si on considère que la meilleure personne, c'est celle qui est la plus prête à aider les autres, à s'engager pour l'équipe, on a évidemment le droit de considérer ça et que ce n'est pas, par exemple, le critère analytique ou une forme de vivacité qui serait le critère numéro un. Donc, la définition du meilleur, ça, c'est à chacun de voir. Évidemment, si on a un moment pour performer, il faut quand même retrouver un certain nombre de qualités, d'impact et d'engagement, mais y a pas de, la hiérarchie n'est pas la même pour toutes les entreprises. Du coup, ça reste assez relatif. La question, c'est comment je définis un très bon recrutement sur un poste donné. Et ça, c'est le début et c'est la clé du succès de tout recrutement.
Okay.
C'est déjà d'être clair avec ce qu'on veut. Et
donc
c'est
ça,
pas
c'est
si simple.
Ça, c'est alors,
pas si simple.
Ouais, t'as rentré directement dans le sujet, donc on y va. Donc en fait, t'as assez processé le voilà, il y a toute une histoire, enfin, il y a une suite logique d'enchaînement, d'action. Il y a un processus très clair que tu décris dans ton livre. Donc le premier, c'est définir le besoin. Ok.
Oui.
Donc comment on s'y prend? C'est quoi les étapes clés?
Oui.
Et si je suis, je vais mettre dans les chaussures d'un entrepreneur qui a qui débute, elle a un an d'existence, voilà, pas trop de moyens non plus.
Bien sûr. Ouais.
Voilà, la plupart des gens, on ne monte pas tous Doctolib, mais l'idée c'est, voilà, majeure partie des gens, comment on s'y prend?
Il y a une partie sur laquelle il ne faut probablement pas foncer, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est prendre le temps de définir réellement de qui on a besoin. Et du coup, là, on peut faire pas mal de choses. Moi, un conseil que je donne souvent, qui est très concret, c'est d'aller voir des entrepreneurs qui sont plus avancé que l'entreprise dans laquelle on est.
Donc, okay.
En reprenant ton exemple, Arnaud, start-up de 5 à 10 personnes, on essaie de trouver autour de soi une start-up qui aurait des métiers pas si différents, d'accord, de 30, 40, 50, 80 personnes. Et on parle au fondateur de cette start-up. On lui dit, comment est-ce que tu as fait? Tu vois, là, je vais recruter mon premier sales, par exemple.
Ouais.
Comment est-ce que tu as fait, toi, pour recruter tes premiers sales? C'est quoi tes enseignements? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les risques, le type de profil à considérer? Et vous essayez de faire ça avec 2-3 personnes.
Et on multiplie, ouais.
Et ça, c'est une richesse exceptionnelle. Quand vous avez fait ce travail,
ouais,
vous ressortez avec des choses en tête qui ne sont pas ce que vous aviez avant de l'avoir fait.
Okay.
Donc, ça prouve bien. Et alors, évidemment, c'est très théorique ce que je dis. Chaque histoire sera différente. Mais prenez vraiment le temps. Ne foncez pas, surtout si vous êtes sur des types de postes nouveaux.
Ouais.
Vous êtes sur un responsable financier, vous n'en aviez pas, c'est nouveau. Prenez le temps. Vous n'aviez pas de sales, c'est le premier sales. Prenez le temps de poser le jeu. Vous prenez un nouveau type de lead dev dans votre organisation technique. Prenez le temps d'aller chercher vraiment. Parce que si vous dessinez mal le portrait robot de la personne à recruter, en fait, vous allez rater le recrutement. Pas parce que la personne ne sera pas bien, c'est que vous avez simplement pas mis dans le logiciel les bons critères de recherche.
Ok, donc premier sujet, donc s'entourer, demander aux autres, ceux qui ont passé les étapes baptême du feu.
Ouais. Et là vraiment, enfin, je réinsiste, c'est moi vraiment l'expérience, et ça c'est pas une observation d'Antoine Fraisse, hein, je pense que tout le monde, toute personne qui a fait beaucoup de recrutement dira ça. Il faut se méfier un peu de ses intuitions, il faut se méfier de je fonce. Ça y est, on a validé ce recrutement. Dès demain, je vois 10 candidats. Là, il faut poser le jeu pour décrire ce qu'on appelle souvent cette scorecard, c'est-à-dire ce portrait robot idéal.
Ok, donc tu as une manière assez carrée. Donc, c'est quoi une scorecard? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Et concrètement, tu l'as fait comment pour un... On va prendre un directeur financier ou...
Très bien, un directeur financier, une scorecard, c'est...
Peut-être que c'est pas adapté, pardon, pour les boîtes de 5 à 10. On va prendre un premier développeur, je pense.
Un premier développeur, très bien. Même un cas un peu particulier parce qu'on va...
Comme tu veux.
Mais très bien, un premier développeur, c'est parfait. La scorecard, c'est lister les critères, les expériences, les qualités de la personne. Mmh. Et c'est les lister... Il y a des choses qui vont être de l'ordre du factuel, avoir, pour reprendre le cas du développeur, avoir fait au moins 3 ans de développement de manière autonome dans tel type d'organisation. Ça, c'est assez factuel.
Ouais.
C'est-à-dire que si la personne ne l'a pas, on considère que ça ne fera pas l'affaire. C'est tant mieux, parce qu'il faut bien...
Il faut bien
filtrer. Et puis, il y a des choses qui vont être beaucoup plus de l'ordre de l'évaluation, ce qu'on appelle les soft skills, hein, assez souvent, qui sont hyper importantes, évidemment, dans l'évaluation, qui vont être sur... l'esprit d'équipe de la personne, sa capacité d'engagement, sa capacité à écouter, à se développer, sa capacité à aider les autres, etc. etc. Et donc, on se liste un peu, on fait un peu ses courses sur toutes les qualités, les savoir-faire qu'on a envie d'avoir chez cette personne. Alors, si vous arrivez à une liste de 20, c'est trop. Si c'est 3, c'est pas assez. Donc, j'ai pas de chiffre idéal, mais on va dire que une scorecard entre une petite dizaine de lignes, c'est bien, quoi. Et ce qui est très important, c'est de hiérarchiser ces lignes et en particulier de se faire un peu un top 3. Qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir sur lequel on ne transigera pas chez cette personne? Pourquoi? Parce que sinon, on a le risque du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir tout et du coup, on ne trouve pas. Donc, il faut lister un peu cette dizaine de qualités. Ça peut être 7, ça peut être 12, enfin, il n'y a pas de règle absolue. Et essayer de faire ressortir vraiment le top 3.
Mmh.
Et ça, notamment quand vous êtes une équipe à décider que vous êtes plusieurs fondateurs, plusieurs dirigeants d'une entreprise, c'est très intéressant parce que ça génère de très bonnes discussions en amont sur réellement de qui on a besoin.
C'est une des vertus
C'est une des vertus de la scorecard, c'est de s'accorder sur ce cahier des charges.
Ouais.
Quand vous faites un développement technologique, vous avez toujours un cahier des charges. Quand vous faites un recrutement, vous avez toujours un minimum de scorecard.
Ok, donc ça c'est le plan, portrait robot, scorecard pour aligner tout le monde,
voilà,
et définir bien les besoins et hiérarchiser.
Voilà. Alors peut-être qu'en lançant le recrutement, en ayant vu 5 candidats, vous allez vous dire, notre scorecard, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas, on l'a fait évoluer, c'est pas grave. On change un ordre, on rajoute une compétence dont on s'est rendu compte qu'en fait, elle est nécessaire. Et c'est très bien, une scorecard peut évoluer. Il ne faut pas qu'elle évolue tout le temps, parce que sinon, on ne sait plus trop où on va. Mais c'est normal, notamment en début de process, de l'adapter.
Non, mais c'est bien de réifier en tout cas ses besoins, écrire noir sur blanc, et après, si ça change, bon.
Voilà.
Yes, donc premier, on définit le besoin, scorecard, on hiérarchise. Ensuite, vient l'étape dans ton livre, tu décris bien le process, on doit créer l'annonce. Et donc, en fait, il y a tout un système aujourd'hui, on le voit pas mal. Il y a pas mal de portails. Il faut se différencier. En fait, c'est le sujet du jour. C'est la guerre des talents. Donc, comment on fait pour, voilà, ici on est à Toulouse. On va le dire clairement, c'est compliqué de faire venir des gens à Toulouse. Des fois oui, des fois non. Enfin, ça dépend. Mais plus difficile qu'à Paris, là où il y a des grosses agglomérations. Comment on rédige cette annonce-là? Comment on est sexy? Comment on fait venir des gens à Toulouse?
J'ai cofondé une société qui s'appelle Naturabail, dont l'équipe tech est à Pau.
Bon.
Et le reste d'entreprise à Senlis. Donc à Toulouse, c'est très bien.
Okay.
Y a pas de,
les Palois.
Je dis pas que tout est. Je dis pas que tout est facile, mais c'est pas non plus. On peut complètement réussir des très belles boîtes à Toulouse. Comment on. Bon, la rédaction d'une annonce, c'est pas. On pourrait y passer des heures, c'est hyper important. C'est un énorme sujet de conversion ou pas. Quand vous avez 10 personnes qui lisent une annonce, et ben, avec une très belle annonce, vous aurez 40%, 4 personnes qui auront envie de vous écrire. Et si l'annonce, elle est très basique, ben, vous aurez une personne qui aura envie de vous écrire. Donc, c'est pas du tout un détail. Et la manière de se différencier, on pourrait citer beaucoup de choses, mais il y en a une qui se détache que j'ai envie de partager avec toi, c'est de vraiment, et ça c'est très vrai notamment quand on est une jeune société, une PME, quand on est petit ou pas encore très connu, c'est de parler de sa vision et de sa mission. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de communiquer sur ce qu'on a envie de faire sur le long terme. Donc il ne s'agit pas de pipoter, il faut exprimer quelque chose qui est sincère, qui est une vraie envie de l'entreprise. Hein. Le but c'est pas de. Mais en revanche, c'est normal de dire qu'on crée un nouveau système, un nouveau service pour révolutionner telle ou telle profession, la manière dont travail est fait dans une région donnée. Et il n'y a pas de, mauvaise révolution. On peut être une boulangerie ou une chaîne de 2 ou 3 boulangeries locales avec l'envie de créer les meilleures pâtisseries de la région ou l'ambiance de travail la plus exceptionnelle. Il n'y a pas de. Toute entreprise peut avoir sa mission, son rêve, mais elle doit apprendre à l'exprimer, un peu à la théâtraliser.
C'est ça, il y a un narratif à créer.
Il y a un narratif à créer et c'est normal. On communique, là, c'est de la vente, quoi. Donc, ça va être de la vente fondée sur quelque chose de vrai et qui donne envie. Si c'est simplement vous serez reportant A, vous serez responsable 2, nous sommes un parmi d'autres, ben, ça donne moins envie, quoi.
C'est vrai que c'est une position, en fait, tu soulignes, c'est une position de vendeur, en fait. Recruter, c'est pas simplement essayer d'attirer, mais c'est chasser et vraiment, enfin, dans le sens noble du terme, aller et s'entourer, s'entourer des meilleures personnes, donc il faut aller les dénicher, donc créer tout ce narratif là autour. C'est un. En tout cas, sur une annonce, c'est primordial. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel. Enfin, un autre point clé que tu verrais sur une annonce au-delà des hard skills, soft skills, qu'il faudrait mettre sur une annonce? Est-ce qu'il y a des portails aujourd'hui qui sont complètement éclatés ou au contraire qui. Des manières de.
Après, il y a des choses qui sont, je pense, qui sont un peu plus connues, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas, pas bien garder en tête. C'est que plus vous avez de l'image de la vidéo, plus c'est intéressant, plus vous êtes capable de. Parce qu'on a envie de se projeter dans votre entreprise.
Non, il y a ces outils-là.
Voilà, et ça.
Personnel, ouais.
C'est, en fait, ça, globalement, on le sait, mais ça, c'est mieux de le faire, quoi. On a toujours plus envie de se rapprocher d'une société pour laquelle on voit des visages, on voit des sourires, on voit des.
Ouais.
Donc, si vous avez au moins le faire un peu, même si vous avez peu de moyens et que votre entreprise est jeune, et ben, c'est très bien.
OK. Bon, tout le monde est à peu près équipé, un smartphone, on peut faire merveilles.
C'est ça.
Donc, une fois qu'on a définition du besoin, créé l'annonce, on a besoin d'un certain nombre de volumes. Tu disais tout à l'heure, donc c'est pas 5, c'est pas 20, il y a un entre-deux. Mais du coup, ça veut dire qu'à partir du moment où on va recevoir des gens, donc une quinzaine de personnes, il y a un process qui est absolument important, c'est ce que tu appelles le screening call. Ça sert à quoi? Qui le fait? Et ensuite, le rôle du CEO d'une boîte de 5-10 personnes dans ce process-là.
Donc, sur les recrutements un peu significatifs que vous avez à faire, t'évoquais des chiffres. Les chiffres sont évidemment très théoriques puisqu'on peut faire un bon recrutement en ayant vu 30 personnes ou en ayant vu 5. Il n'y a pas de problème avec ça.
Il n'y a pas de règle.
Mais ce qui est vrai, c'est que, un peu comme en vente, le parallèle entre le recrutement et la vente est un bon parallèle. Et ces deux activités sont très nobles. Il y a un effet volume qui finit par jouer. C'est-à-dire que si systématiquement vous faites des recrutements en ayant vu quelques personnes, parce que vous êtes probablement sous-optimal. C'est que vous n'allez pas prendre le temps de réellement aller chercher à rencontrer les meilleurs. Il y a un effet volume. Pourquoi ? Parce que si vous recherchez des pépites ou des stars ou des personnes qui se détachent, eh ben c'est un sport difficile. Et donc, souvent, une manière de le voir, c'est est-ce qu'on a pris un peu la personne qui faisait l'affaire ? Quelqu'un, en fait, on est probablement en train de...
Se planter.
Bah ouais, de manquer d'ambition, c'est dommage. Ou est-ce qu'on hésite entre deux très bons profils ? Et là, on a fait le job. On est vraiment allé parler à beaucoup de monde. Et à la fin, on a bien évolué. Et vraiment, on se dit, OK, là, j'ai deux bons choix.
OK, c'est
avoir
ça le...
Avoir deux bons choix, c'est un indicateur d'un super process de recrutement. Ça ne garantit pas le succès, hein, ça reste très... Mais en tout cas, on commence à s'en approcher.
Okay.
Et le faire sur plusieurs recrutements, là, on s'approche vraiment d'une société qui se donne toutes les chances d'avoir une top équipe. Ce qui change tout.
Non, mais c'est important de se dire, en fait, il faut être dans une sorte d'impasse, c'est-à-dire on a les deux meilleurs, en tout cas, dont on rêvait.
Je ne sais pas s'il faut, mais c'est une situation, si on la rencontre assez souvent dans ces process de recrutement, c'est bon signe. C'est qu'on a fait l'effort d'aller rencontrer un nombre significatif de personnes.
OK.
Et donc, dans mon livre, je cite une douzaine ou une quinzaine. Encore une fois, c'est très théorique, ça dépend de la criticité des postes, mais c'est sûr que pour des postes un peu significatifs, mais même des postes qui se répètent, hein, de développeurs, de sales, etc., aller trop vite, bah, c'est souvent juste minimiser la probabilité de vraiment faire des recrutements qui changent la donne pour l'entreprise. Hein. C'est pas une légère valeur ajoutée. Okay. C'est les personnes qui font le succès à la fin. Donc, si on les trouve, on est bon. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est l'intro. Comment tu accroches, c'est le qui fait les choses, c'est pas le comment. Et donc du coup, si on revient sur le screening call,
oui,
pas de souci. Donc du coup, qui doit le faire, le rôle du CEO dans ça, est-ce que ça doit être, t'as une position qui est assez intéressante, est-ce que tu pourrais l'expliquer?
Bon, le screening call, c'est pas une obligation, c'est quand vous avez des candidatures entrantes sur votre process et que vous avez approché en faisant par exemple vous-même de la chasse sur LinkedIn, les profils qui vous intéressaient, vous vous retrouvez avec un certain nombre de personnes avec qui échanger. Ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles ne font pas tout de suite un entretien d'une heure parce que ça risque d'être une perte de temps un peu trop souvent. Et donc elles font ce qu'on appelle un screening call, en gros qui est un échange assez court d'une vingtaine de minutes au téléphone. Là l'idée c'est quoi ? C'est d'aller vérifier que la personne... je reviens à la scorecard, le top 3 ou 4 critères, parce qu'on ne le voit pas toujours sur un profil LinkedIn. Donc vérifier que la personne est intéressante, qu'elle a l'air motivée et engagée au téléphone, et puis évidemment lui faire une vente aussi de l'opportunité pour lui donner envie de passer au tour d'après. Ce screening call, là pareil, pas de chiffres vérité, mais très souvent, on va dire, les entreprises font passer une petite moitié des personnes avec lesquelles il y a eu un échange au téléphone au tour d'après. Ça permet de concentrer le tir sur les entretiens qui ensuite vont être beaucoup plus longs, puisque là on va rentrer dans le détail, de les concentrer sur des personnes qui ont été triées, passe-moi l'expression, mais tu vois ce que je veux dire, on s'est assuré qu'on était globalement bon sur la scorecard et que la personne avait aussi un intérêt minimum.
Ouais. Non, il y a aussi le fait de checker j'imagine qu'il y a ce qu'on appelle les red flags, donc des choses qu'en fait on ne veut pas absolument chez une personne. Parler des soft skills, c'est difficile d'évaluer sur un CV ou sur LinkedIn. Peut-être qu'en fait c'est le moment aussi de, pendant ces 20 minutes là, de ou pas.
Les soft skills, c'est peut-être Ça peut être le cas, mais c'est peut-être un peu plus dur en 20 minutes. Mais en revanche, en 20 minutes, on peut tout à fait être sur les attentes majeures qu'on a sur sa scorecard. Si tu cherches quelqu'un qui a fait des sales pendant au moins 3 ans pour vendre du logiciel à des grands comptes, par exemple, c'est peut-être pas très clair sur LinkedIn. En fait, assez vite, au bout de 5 minutes de call, tu vas peut-être te rendre compte que la personne, elle en a fait un an parce qu'avant, elle faisait plutôt du support et qu'en fait, tu n'es pas du tout dans la seniorité que tu recherchais.
Ouais. Ce
n'est pas grave. Tu peux d'ailleurs l'expliquer très humblement à la personne à qui tu parles. Donc, c'est plutôt sur des choses très factuelles que tu vas aller valider ou pas.
Okay.
Ça peut être des choses un peu plus fines, mais là c'est un peu dur de donner des règles.
Non, c'est peut-être poser des questions pour valider si la personne n'est pas un mytho ou une mythomane. J'en sais rien.
Ça peut être quelques points de check de parcours pour voir si on est bien dans
les personnes attendues.
Et évidemment, si tu es en face de quelqu'un qui a l'air vraiment pas motivé, qui n'est pas clair, qui commence le call un quart d'heure en retard, peut-être que ça commence à faire beaucoup pour le faire passer au tour d'après. Ça, c'est à chaque entreprise de se faire un peu ses règles.
Ok. Sur cette partie-là, donc là, on a un volume. Ensuite, on fait passer donc les entretiens un peu plus longs. Mm-hmm. Tu parles beaucoup des business case. Alors là, c'est assez intéressant parce que donc, dans l'étude dont je te parlais hier soir, une méta-analyse sur quels sont les prédicteurs de performance au travail, mm-hmm. le business case, c'est un des éléments qui est le plus prédicteur
ça
de performance.
Pas, ouais. Ça m'étonne pas.
Avec le CV Biodata, avec écrit exactement, hein, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai recruté X, ouais. j'en sais rien. Ouais. C'est très précis.
Ouais.
Alors que l'expérience n'était pas significative.
Bah, l'expérience en nombre d'années.
En nombre d'années.
D'accord.
En nombre d'années. Effectivement, c'est important de dire ça. Le sujet, c'est donc les business case. C'est quoi exactement? Comment tu le designs? Tu fais passer le même business case à tout le monde? Comment tu t'inspires de quoi?
Donc, le business case, ça consiste en fin de process de sélection.
Ouais.
Donc, c'est pas quelque chose... C'est en général, si vous considérez que quelqu'un doit faire 3 entretiens, par exemple.
Oui, voilà, pardon.
Ce sera plutôt le 3e.
Ok.
C'est pas quelque chose que vous faites faire à tout le monde. Le business case consiste à faire comme si le candidat était déjà dans vos locaux, dans vos murs, et lui soumettre un ou deux problèmes business sur lesquels vous lui demandez de travailler 1 heure, 2 heures chez lui, et qu'il vient ensuite en entretien, il vient présenter son travail, et vous avez une sorte de réunion de travail avec lui.
Ouais.
Vous recherchez un profil marketing, idée de business case, regarde la home page de notre site. Est-ce que tu peux nous faire des propositions d'amélioration? Là, vraiment énoncé hyper large, etc. Est-ce que on peut faire un énoncé plus précis? Est-ce que tu peux nous dire les sites sur lesquels tu irais pour t'inspirer, qui sont en fait les meilleures pratiques sur le home page? Est-ce que tu comprends la promesse de la société pour ses clients? On peut aussi décider de poser des questions plus précises. C'est ce type de questions, quand on demande à un candidat de les préparer chez lui et de venir les restituer lors d'un entretien,
ouais.
permet vraiment de s'approcher un peu plus de la vérité de ce que la personne sait faire. Et ce que je conseille, c'est de poser des sujets qui sont en lien réel avec le job que la personne occuperait si elle rejoignait votre entreprise.
Okay.
Si vous cherchez un responsable commercial qui va faire la stratégie pour développer l'entreprise sur une nouvelle cible, et bien demandez-lui ses premières idées sur la stratégie pour développer cette nouvelle cible. Et expliquez-lui aussi pourquoi vous lui demandez. Et parfois, ça peut être vu par des candidats comme un peu trop de travail.
C'est ça. Tu peux quand même vite dire à des personnes qui ne vont pas faire de zèle, ils disent « Attendez, moi je suis une star, vous me faites un business case, moi j'ai fait 5 ans chez Uber, mais de quoi vous me parlez ?»
Donc, Donc ça, c'est un point à gérer.
Ouais.
Plusieurs réponses par rapport à ça. La première, c'est que si vous avez en face de vous un candidat motivé, il sera déjà plus capable de prendre ce temps-là. La deuxième, c'est que, alors ça va dépendre un peu du type de job, mais pour pas mal de jobs, notamment pour des personnes un peu plus seniors, le business case, c'est aussi l'occasion de donner de l'information. C'est pas simplement la personne travaille sur un sujet, c'est aussi la société, elle envoie des informations, des vraies informations. Pour des personnes un peu plus seniors, c'est souvent intéressant pour elles de savoir, on parlait des chiffres de vente, elles reçoivent les tableaux de vente. C'est pas, et du coup, vous donnez aussi. Il y a une logique de transparence. Vous l'avez peut-être vécu, mais rien de pire que d'arriver dans une société en découvrant les choses. Ah, il m'avait dit qu'on avait 8 comptes en continuature, mais c'est pas vrai en fait. Donc il y a aussi un aspect très intéressant dans le business case, c'est que la communication, elle marche dans l'autre sens.
Ouais.
C'est un peu du donnant-donnant. Bon. Le dernier point, c'est que je pense que c'est important d'expliquer si le candidat, c'est pas clair pour lui, pourquoi vous faites ce business case. C'est pas le plaisir d'avoir 2 heures de conseils gratuits, même si ça peut peut-être être intéressant. Mais
sincèrement, c'est les stratégies pour ouvrir les chakras.
Mais franchement, c'est juste. Mais là, on va travailler ensemble. C'est pas. Et pour toi, c'est intéressant aussi parce que si pendant le business, je pense qu'il y a des candidats qui ont vu, qui sont venus avec leur petite préparation, qui ont vu le recruteur, la manière dont il posait ses questions, et qui se sont dit en sortant, non mais je sens pas trop le fit.
Ouais.
Donc c'est intéressant aussi pour le candidat. Donc je pense qu'il faut lui expliquer ça. Et on se fait vraiment une réunion de travail, donc c'est un peu les éléments de réponse que j'aurais. En tout cas, rien, je pense, qui justifie qu'on ne le fasse pas.
C'est ça le truc.
Parce que c'est d'une richesse vraiment. Enfin, c'est vraiment fort pour évaluer.
Ok. On va faire juste une petite marche arrière. Je prends une question qui a été posée.
Oui.
Sur la question du volume de candidature.
Oui.
Est-ce que vous avez des recommandations pour créer du volume? Alors que justement, on est très sharp sur les critères qu'on veut avoir. Donc, Oui. Je pense que ça doit être très, 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 très ciblé, notamment sur les postes très concurrentiels. Donc, comment on fait pour avoir du volume sur ça, enfin...
Ouais, le volume, quand on est peu connu, donc on n'a pas nécessairement d'entrants.
Ouais.
Et en tout cas, on ne peut pas compter dessus. Les deux canaux principaux, le premier, c'est le réseau. Et ça, la réponse est un peu évidente. En revanche, il est souvent quand même sous-utilisé. Donc, il ne faut pas hésiter à aller loin en expliquant, bien sûr, dans ce qu'on demande à les équipiers d'une entreprise, les partenaires d'une entreprise, les clients, les fournisseurs, les comptables, les partenaires stratégiques.
Ok, il faut en parler à tout le monde.
Tous les collègues du coworking, etc. Donc, il ne faut pas le faire n'importe comment.
Non, bien sûr. Oui,
mais il ne faut pas hésiter à demander. Et en fait, moi, j'ai observé que c'est une moyenne, c'est le plaisir de donner des chiffres, mais juste pour imaginer un peu le message, qu'on utilisait peut-être un quart de la puissance de son réseau.
Ok. Donc
il faut prendre ce temps-là, et on a tous entre 20 et 40 personnes à qui parler de ces recrutements clés.
Ouais.
Et c'est pas juste parler à ces personnes-là en leur disant « est-ce que toi ça t'intéresse ?» parce que là, c'est pas si courant d'avoir quelqu'un qui tombe pile, ça peut arriver. Mais c'est, est-ce que tu penses autour de toi des personnes qui pourraient correspondre à ça? C'est une super opportunité. Il faut vendre l'opportunité. Ouais. Il faut vendre l'opportunité à son réseau pour que le réseau ait envie de se bouger. Mais ça, c'est vraiment le sujet. Et le sujet numéro 2, c'est de prendre le temps dans vraiment énormément de situations de recrutement, de chasser, c'est-à-dire de considérer en fonction de la scorecard où sont les bons profils et aller les chercher sur LinkedIn. Et aller chasser en testant des messages d'approche sur plusieurs dizaines de profils. Alors, au début, on commence avec un petit panel pour voir ce qui se passe, pour adapter un peu le message. On cherche un profil pour faire de la logistique sur une PME. Et ben, on va regarder des sociétés un peu plus importantes qui ont des installations logistiques qui ont l'air bien faites. On essaie de se renseigner. On trouve une quinzaine d'entreprises pertinentes. Et on va regarder sur LinkedIn tous les responsables logistiques et on les approche.
Puis il y a une autre vertu que tu mentionnais, en plus de contacter, chasser et d'avoir un échange, c'est aussi de bien connaître le métier, de pouvoir comparer en amont. Ça permet de bien cerner les attentes des postes pour chaque individu. Même si on n'est pas en recherche active, on est tout le temps en train de chasser, on arrive à mieux comprendre les enjeux de chaque individu sur ces postes-là. Est-ce que c'était ça?
Alors, je pense que quand on fait beaucoup de recrutement, on gagne beaucoup d'informations en plus du process de recrutement.
Ok.
Donc ça, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que à force de, c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Hein. Il faut pas avoir trois fois plus de candidats pour. C'est pas parce que ce serait pas très rentable. Mais il se trouve que en faisant beaucoup de recrutement, c'est rare que on sorte pas avec des idées, disant ah tiens c'est marrant, il m'a expliqué ce qu'il faisait là en logistique. Ils ont utilisé apparemment ce prestataire, on devrait regarder quoi. Donc le recrutement, c'est jamais du temps perdu pour faire de la stratégie et faire de l'amélioration sur son entreprise.
Trop bien.
Mais pour revenir à la chasse,
oui.
Ou en tout cas à l'approche directe, peut-être que le mot chasse est un peu ou vieux jeu ou
non, on peut dire même chasseur de tête aujourd'hui.
En tout cas, approcher des profils sur LinkedIn ou différemment, c'est vrai que LinkedIn marche plutôt globalement bien.
Ouais.
En testant des approches, avec des messages courts, avec un call to action, c'est-à-dire une demande claire et nette. Est-ce qu'on peut se prendre un café une demi-heure, s'appeler 10 minutes, ça, en peaufinant le message, la manière de l'amener, eh bien, même si on n'a pas une société avec un nom hyper connu, on peut arriver à transformer 10-15% des cibles d'utiliser ce terme commerciaux, mais des personnes à qui on écrit qui vont dire OK pour un call, OK pour un café.
Il y avait une pratique qui est juste trop intéressante. Je permets d'en parler. Tu parlais hier donc que tu avais créé un CRM des individus. Tu disais lui, il faut absolument que je bosse. Enfin, tu l'as rencontré cette personne-là. Il faut absolument que je bosse avec elle un jour. Et bien sûr, c'est pas tout de suite parce qu'elle est en poste, etc. Mais tu t'es même créé un CRM là-dessus. Quoi.
Alors, des entreprises autour de moi l'ont fait de manière beaucoup plus avancée que ça, mais l'esprit, c'est créer un... Je crois que le public composé plutôt de PME et de start-up, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grands groupes, mais Donc évidemment, on n'allait pas lancer un mois de développement pour faire un outil tech de plus.
Non, dans un Trello.
Voilà, mais vous dire, en tout cas dans l'esprit que vous avez.
Okay.
Et ça, c'est vrai notamment sur les personnes les plus. Ce qui se passe, c'est que c'est souvent dans un réseau, c'est souvent les mêmes personnes qui amènent le plus d'idées. Parce que c'est comme ça, ça s'observe.
Okay.
Se dire que vous avez une dizaine ou une quinzaine de contacts qui sont soit des personnes que vous avez envie de recruter un jour ou des personnes qui ont souvent des très bonnes idées pour trouver des profils, et que ces personnes-là, vous leur parlez régulièrement, vous entretenez la relation, en général, c'est une bonne idée parce que ça finit par payer.
Ouais.
Et donc, c'est ça, cette logique un peu de CRM personnel, CRM au sens où ben, vous essayez d'avoir une interaction, je sais pas, deux fois par an, par exemple.
Ouais. Puis ça te permet de garder contact.
Garder contact.
Et derrière, peut-être conclure, ça marche. Peut-être.
Et très bien aussi, quand vous échangez avec ces personnes-là, ben, c'est de rendre service, c'est de se dire, ok, mais moi, je propose, j'ai ce recrutement à la logistique. Mais toi, du coup, c'est quoi tes attentes du moment? Et être capable de dire, tiens, Maria, j'ai vu ce candidat, nous, on n'a pas besoin de ce type de profil aujourd'hui, mais peut-être ça peut t'intéresser. C'est souvent dans l'échange qu'on arrive à créer les relations, les meilleures relations.
Ok.
Et ça marche pour recrutement, mais ça marche pour ce top fournisseur, ce SaaS incroyable qui nous a permis de changer ça et ça. Enfin, plus on échange avec ses pairs et avec ce réseau sur les quelques grands sujets de partenaires, profils à recruter, outils, comptables, auditeurs, enfin tout ce que tu veux, plus en fait on crée des réseaux hyper puissants qui vont être utiles à l'entreprise.
Je pense que, en tout cas, ça fait partie des. Enfin, on va suivre encore on va continuer le fil. Ça fait partie des bonnes pratiques. Maintenant, on est peut-être sur la finalisation, ou en tout cas sur comment on. Voilà, on a notre shortlist, on a bien défini les besoins, on a la scorecard, on a fait le premier entretien screening,
ouais.
On a fait l'interview, on a fait 1, 2, 3, on a fait valider par les équipes, ouais. On a fait le business case.
Business case, ouais.
Ou autre, hein, on a suivi la méthode Fraisse. Regarde ça comme ça. Et là, on arrive au moment où. Donc,
décision, c'est ça?
Ouais, et puis il y a la décision, mais juste avant, il y a une option dont tu parles, celle du call de référence. Il y en a beaucoup qui font ça en mode street, ils appellent sauvage. Comment on fait un bon call de ref? Dans la légalité, si possible. Genre, qu'est-ce qu'un bon call de ref légal? Et c'est quoi les bonnes pratiques?
Non, la légalité, c'est que sauf erreur de ma part, il faut que la personne, le candidat, ait donné le.
Ouais, c'est ça. Il faut donner le nom.
Ça, c'est la règle. Mais au-delà de ça, la prise de référence, franchement, c'est pas une étape à zapper. Sauf éventuellement, évidemment, sur un profil très junior qui n'aurait pas d'expérience. Donc là, c'est un peu différent. Mais la prise de référence, il faut la faire. Je vous conseille, si vous êtes le décisionnaire du recrutement, de faire vous-même cette prise de rêve, de ne pas la laisser faire, par exemple, par un chasseur de tête. Même si vous avez pris un chasseur pour vous aider, la prise de référence, je vous conseille de ne pas la lui laisser. C'est trop critique. Vous avez trop besoin d'avoir la vérité de la prise de rêve. Et un chasseur a trop intérêt à dire oui, la prise de ref est bonne, ça y est, c'est fini, la mission est finie.
Il veut absolument.
Il veut finir, ça fait 3-4 mois qu'il bosse, il a appelé des centaines de personnes, il n'en peut plus. Enfin, aller dire j'ai des doutes, ça revient à repartir pour lui pour 3-4 mois. Enfin, c'est l'écart de conflit d'intérêt est total avec l'entrepreneur.
Donc, okay.
On fait soi-même la prise de référence.
Entendu.
En plus, c'est beaucoup plus valorisant pour la personne à qui vous parlez. Parce que voilà, c'est le fondateur ou le manager de l'équipe qui appelle lui-même. Il prend son. C'est important. C'est un échange.
Il prend un peu de son précieux temps. Et
voilà, c'est un échange. C'est pas. Et après, la logique de la prise de référence, bah, c'est que c'est indispensable, mais que c'est un terrain miné. Parce que la personne en face, elle ne vous doit rien. Elle ne te doit pas. Un autre, tu l'appelles. Elle connaît beaucoup mieux, en général, le candidat que toi. Donc elle n'a pas. Elle ne te doit rien et elle n'a pas un intérêt particulier à te dire la vérité, voire même, elle pourrait éventuellement. Inconsciemment très consciemment être gêné d'être négative et même inconsciemment de se dire oh là je vais me prendre un retour de bâton si ça se sait. Donc le jeu est biaisé très souvent, il est hyper biaisé, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Du coup, faut apprendre à décoder. C'est un peu des signaux faibles, c'est-à-dire que c'est pas, on n'aura jamais ou très rarement dans une prise de ref, ah c'est un mauvais manager. On aura plutôt éventuellement, ses points de force, c'est, j'en cite un certain nombre, mais il n'y a pas le management dedans. C'est un bon manager. Tout est dans l'intonation. C'est plutôt un bon manager. Et c'est là, il faut comprendre, il faut lire entre les lignes, il faut essayer de poser des questions qui s'éloignent un peu de choses dures, qualité-défaut. Où est-ce qu'on pourrait le compléter au sein de l'équipe, cette personne-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aime moins faire? Aimer moins faire, c'est moins grave d'aimer moins faire quelque chose. Par exemple, aimer moins faire le reporting et des tableaux, bah, c'est moins grave pour quelqu'un qui donne une référence que de dire, oula, c'est pas une personne très chiffrée, elle s'en sort pas sous Excel.
Ouais.
Mais c'est là où on s'approche des signaux faibles et on commence à avoir des infos.
Okay.
Surtout si elle recoupe d'éventuels défauts qu'on a vus, évidemment.
C'est ça, c'est trianguler l'information. C'est
trianguler, il y a un aspect un peu, là encore, détective, mais c'est normal, vous êtes là pour essayer de comprendre à qui vous avez affaire.
Ouais.
Et sachez aussi qu'à la fin, cette espèce de travail un peu de reformulation, de double, de triple question à la prise de ref, vous pouvez vous dire que c'est aller un peu loin, mais de toute façon, un recrutement qui est fait sans avoir bien compris la personne en face, c'est jamais une bonne nouvelle pour la société, mais c'est pas une bonne nouvelle non plus pour la personne qui est recrutée.
Okay.
Parce que si ça se passe mal, tout le monde aura perdu. C'est pas c'est important de prendre des refs et de comprendre vraiment ce qui s'est passé. Parce que le meilleur indicateur de performance du futur, c'est quand même ce qui s'est passé dans le passé. Hein.
Okay.
Ça reste des mots, hein, sinon l'entretien. C'est
ouais.
Très.
C'est pas de balader quoi. Après, sur les moteurs, il y a des choses sur l'avenir qui peuvent donner des infos, mais.
Oui, mais enfin, les performances, ce qui s'est réellement passé dans le passé,
ouais.
Et pour le coup, l'étude de cas. Parce que ça, c'est factuel. Hein.
C'est ça.
Sont des éléments, pour le coup, ultra concrets. Mais la prise de ref, c'est du concret avec un biais majeur de la personne qui la livre. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'écouter.
Entendu. Je reprends une question qui a été posée. Prise de référence mieux par le manager ou le RH interne. Donc, en fait, on va prendre le cas d'une grosse boîte. Ouais. J'imagine que c'est plutôt ça, en fait, là,
ouais.
Dans ce cas-là. T'as vu, c'est.
Moi, je pense que la prise de ref, c'est mieux par le manager qui va être le ou la boss de la personne recrutée.
Ouais.
Qui sera aussi la personne qui aura été la plus présente lors du process de sélection. Pour cet aspect notamment, tu évoquais de triangulation, là ça fait un peu flicage, mais en tout cas,
non, mais...
dit positivement, c'est la personne qui va être le plus à même de recouper ce qu'elle va entendre, les signaux faibles, avec ce qu'elle a elle-même entendu pendant tous les entretiens. Et ça, en un, ça doit être le manager qui recrute. La responsabilité numéro un du recrutement devrait être, je pense, les managers en place, ce qui ne veut pas dire que les RH n'ont pas un rôle ultra stratégique. C'est pas l'un contre l'autre. Mais en général, dans les organisations, et même dans les grands groupes, c'est plutôt une tendance en train de se dessiner. Mais c'est lié à ce que je te disais en intro. C'est, vous avez une grosse équipe, vous dirigez de grosses opérations. Votre sujet numéro un, c'est la qualité des équipes.
Mmh.
Si vous considérez que ça, vous devez le laisser faire aux autres, que ça vous verrez bien qui arrive, je pense que c'est pas la bonne direction.
Ok. Je continue sur d'autres. Il y a d'autres questions que tu as posées, mais je les garde pour après. Je vais finir la trame. Il y avait une question. Pour finaliser cela, il y a la question de la remise d'offres.
Oui.
Tu parles bien que c'est un moment charnière. Il faut absolument pas se louper là-dessus.
Mmh.
C'est maxi important parce qu'en fait. C'est un peu comme quand on ferme un poisson et puis au dernier moment, il part quoi. Alors que tout était bien cadré, y avait tout qui était superbe.
Ouais.
Le match,
c'est vrai.
Humain, culturel, vision, tout était très
voilà,
bon.
On est emballé. Ouais.
Et en fait, il y a l'ancien employeur ou l'autre qui le voyait un peu peut-être dubitatif. Il a annoncé en interne, c'est possible. Je crois qu'on est obligé de l'annoncer en interne. Et en fait, il a mis une augmentation, il a mis plus 20% et là c'est fini.
Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il l'a rattrapé.
Ok, bon, pardon, je ne connais pas
le terme. Il ou elle s'est fait rattraper.
Ok, c'est quoi ce genre de situation? Comment on évite ça pour bien finaliser ça?
Alors, si on.
Jusqu'au bout, quoi.
Pour compléter ta question, là on est dans le cas où la personne a déjà dit oui ou pas?
A priori, je pense que c'est ça.
Personne a dit oui.
Moi, c'est ce que je pensais.
Et en général, elle dit alors, c'est pas toujours le cas, mais souvent, je vais l'annoncer, je sais pas, la semaine prochaine ou lundi prochain, etc. Ça dépend des infos que vous avez, évidemment, sur la manière dont ça se passe pour cette personne dans son entreprise actuelle. Mais en effet, le risque de rattrapage, il est assez élevé, on l'a tous vécu. Hein. Au dernier moment, et augmentation de 20%, je change de job, et j'ai pas pu dire non, enfin voilà, le truc. Donc moi mon conseil, c'est au moment où vous avez un oui, c'est très important d'avoir la date d'annonce du départ. C'est vraiment une info très, très matérielle, très factuelle. Pourquoi ? Parce que le soir même, ce que je vous recommande, c'est de prendre un café, un Perrier, comme vous voulez, avec la personne. Alors ça peut être à distance, mais c'est encore mieux de visu. Ouais. Pourquoi ? Parce que si, à ce moment-là, elle a eu un doute, si elle commence à se faire rattraper, en général, ça ne se fait jamais en une heure. Quand elle annonce le départ, l'employeur en face, il prend souvent un peu un coup sur la tête. Il n'a pas forcément tout de suite la capacité de réaction d'aller faire une contre-attaque sur « non mais attends, parce qu'il doit valider parfois un nouveau salaire ». Enfin, il n'a pas forcément pu contre-attaquer tout de suite, il a pu engager une contre-attaque. Attends, laisse-nous 3 jours, je te reviens lundi, etc., etc. Donc il faut vraiment comprendre à ce moment-là ce qui s'est passé. Et donc, le taux de fuite ou de perte le plus important, il est dans les jours qui suivent ou dès le soir qui suit l'annonce du départ. Et donc là, vous devez comprendre ce qui se passe pour, bah, évidemment, rassurer la personne, éventuellement, je veux dire, sans manipulation, hein, mais la remettre devant, si elle a désiré partir, c'est qu'il y avait des raisons. Donc vraiment reprendre avec elle tout ça et emporter, entre guillemets, le match.
Ah, et donc,
il y a, un peu un point, heureusement, c'est pas un cas majeur, hein, majoritaire, enfin, il arrive quand même assez souvent celui-là. Et là, c'est vraiment important, c'est d'exprimer votre envie de travailler avec la personne. Elle a dit oui sur le principe, mais elle a un doute. C'est important à ce moment-là que, et par exemple, si vous avez été 3 ou 4 à voir cette personne en entretien, et bien que vos collègues mettent un petit message WhatsApp, un petit email, un petit call à la personne en disant « écoute, voilà, on est super. On est vraiment ravis que tu viennes. » Enfin, il faut que la société, elle s'engage. Ouais. On peut trouver ça un peu lourd. Moi, mon expérience, c'est que le pire, c'est de rien faire. Attendre une réponse quand on sent qu'il y a un peu un doute, ça, c'est la pire des choses. C'est mieux d'agir et de communiquer, de rassurer, de revendre pour se redonner la chance de le candidat ou la candidate vienne.
Ok, super intéressant. Je prends les questions, il nous reste 5 petites minutes. Mm-hmm. Je vais les prendre au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à envoyer toutes vos autres questions maintenant, comme ça je les prends dans l'ordre ou celles qu'Antoine voudra bien traiter. Donc celle-ci, assez intéressante sur le processus d'interview. Enfin, avec Robin Choi de HireSuite, on a pas mal parlé sur ces questions-là. C'est quoi un process d'interview carré ?
Très bien.
Vous pouvez regarder le meet-up avec Robin. Mais peut-être, toi, tu as une vision qui est peut-être complémentaire ou même qui peut varier un petit peu. C'est quoi tes recommandations principales sur le call screening ? Est-ce que c'est le manager qui fait l'interview ? Le peer interview ? Pardon, je comprends pas trop ce qui... Business case, CEO et HR interview. Tu t'es déjà raté là-dessus, qu'est-ce que tu recommandes ?
Je vais un peu botter en touche sur la question de manière générale. Pourquoi ? Parce que sur le process d'entretien, il y a quand même beaucoup de manières de faire. Et donc, ça dépend des fonctions, ça dépend des sociétés, ça dépend aussi de qui est en mesure de bien évaluer les candidats. Donc, j'ai quelques remarques générales, mais qui dessinent pas une règle un peu miracle.
Okay.
Le screening call, je pense que c'est très bien. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas vu de cas où il n'était pas intéressant de faire ce 20 minutes de call pour essayer de faire gagner du temps à tout le monde.
Okay.
À l'exception des quelques profils exceptionnels que vous croisez. Vous voulez un ingénieur qui connaisse tel langage, il y en a un qui habite pas loin, qui a une super expérience, qui connaît ce langage, et ben prenez le temps d'aller passer une heure avec lui tout de suite. Faites des exceptions quand c'est vraiment quand vous êtes vraiment sur une suspicion d'un profil qui vraiment colle parfaitement. Donc premier point sur le screening. Deuxième point sur recruter à plusieurs, c'est-à-dire mettez l'intelligence collective est une réalité dans le recrutement. Au moins 2, mais si possible supérieur ou égal à 3. Mm-hmm. Évidemment, ça va dépendre de la criticité du poste, mais c'est vraiment recruter seul, c'est vraiment casse-gueule. Les discussions qu'on a sur un candidat ou une candidate souvent permettent vraiment d'évoluer collectivement en comprenant mieux les forces et les faiblesses. Le business case, on en a parlé,
oui.
Quasi systématique sauf cas particulier. Et c'est à peu près tout, parce que sur le reste, il y a beaucoup de manières de faire. Peut-être pour répondre, qui fait le screening call, là, ça dépend tellement de l'organisation et des moyens des sociétés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même dans une société qui grossit, c'est normal, que les dirigeants fondateurs fassent une partie des screening calls.
Ok, ouais, donc ça fait partie du. Voilà. Tu disais, c'était entre 15 et. Un jour et demi par semaine à dédié au recrutement pour un fondateur d'entreprise.
Oui, et donc c'est très bien
qu'il y ait une équipe. Rentrer dans tous les process.
Une équipe recrutement qui fait des screening calls, c'est très bien. Ça n'a rien de choquant sur un poste clé avec un profil qui a l'air de se détacher qu'un CEO passe ses 20 minutes avec cette personne. Pourquoi ? Yes. Notamment parce qu'il y a un sujet de vente qui est énorme.
Ouais.
Et donc même les meilleurs recruteurs ont toujours un peu moins de poids qu'un fondateur CEO ou directeur général face à un candidat.
Le fait de travailler en équipe, sur ça, ça me fait penser à une astuce qui avait été donnée hier. Demander à ses collaborateurs si c'était leur argent, leur investissement, est-ce qu'ils investiraient dans cette personne-là ou est-ce qu'ils s'engageraient personnellement. Enfin, c'était une manière de prendre une décision et de dire est-ce que cette personne-là vaut le coup, est-ce qu'elle est OK ou est-ce qu'elle est OK, c'est la vraie personne.
Oui, je pense qu'au moment... C'était très intéressant. Au moment de se décider, il faut s'écouter. Entre ceux qui ont vu le candidat, il faut s'écouter. Il faut vraiment avoir la vérité sur ce que chacun pense. Alors, on peut. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que ce candidat est exceptionnel ?
Ok.
Donc, en rajoutant un peu.
Ouais.
Et là, en général, on a une réaction qui va être si c'est oui, virgule, il est exceptionnel, oui, il est vraiment très bien. Ou c'est ah non, peut-être pas. Ah non, enfin, s'il y en a une réaction tout de suite d'opposition. Qui est plutôt bien, juste bien, etc. Bah là, on commence à s'approcher un peu de ce que chacun pense. J'aime bien aussi le sport, mais ça, chacun son approche. Mais est-ce que t'as peur s'il est dans l'équipe en face ? En l'occurrence, l'équipe en face, c'est par exemple le concurrent.
Ouais.
Est-ce que ça te fait peur que notre concurrent le prenne ?
Ah ouais.
Oui. C'est la définition, quoi. C'est la définition de quelqu'un qui est très bon, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie d'avoir en face, quoi. Voilà. Et c'est même le foot, on n'a pas envie d'avoir Mbappé en face, c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, c'est clair et net. Voilà. Donc. Il faut vraiment s'exprimer et donner un avis qui n'est pas un avis de ouf, ça y est, on a trouvé quelqu'un, il ou elle est OK. Parce que ça suffit pas pour faire, c'est vraiment l'énorme piège, c'est de valider des recrutements parce qu'on a une pression opérationnelle et qui est importante. Je sais bien, j'ai été moi aussi aux manettes, etc. Quand il y a le feu, qu'on a besoin de quelqu'un, c'est la cata. Enfin, tout le monde souffre, etc. Mais vous allez souffrir encore plus en faisant des recrutements moyens. Parce que ça risque de le faire moyennement, souvent de rater, et ça va vous recoûter encore plus d'efforts et de temps perdu d'aller recruter une autre personne 6 mois ensuite.
Ok. Non, mais au moins c'est dit. Il y a une dernière question sur. Alors, on parlait de réseau tout à l'heure pour recruter, donc quand on n'a pas trop les moyens, passe par son réseau proche, les clients, les fournisseurs, etc.
Ouais.
Et puis, évidemment, il y a la cooptation, on n'en a pas parlé, mais ça paraissait logique dans. Le cœur nucléaire de l'entreprise. La question, c'est est-ce qu'on rémunère ce genre de pratique-là ou pas ? Comment on fait pour. Est-ce que tu as déjà vu des politiques de cooptation qui fonctionnent bien ? C'est quoi tes retours là-dessus ?
Mon retour, c'est que je pense que c'est très bien de tester la rémunération. Mais en tout cas, mon expérience, c'est que ce n'est pas le moyen le plus puissant.
Ouais.
Le moyen le plus puissant, c'est vraiment d'expliquer aux managers, aux équipes, de manière régulière, pourquoi c'est très important de coopter, et c'est de les aider, à les accompagner très concrètement à qui pourrait coopter, comment. Souvent, en fait, les personnes ont autour d'elles des personnes hyper bien, mais elles n'y pensent même pas. Elles se disent même pas que ça pourrait être une option. Et donc, il faut prendre le temps de former à la cooptation, et du coup, il faut en parler très, très régulièrement. Qu'on a fait chez Doctolib pendant, ce que Stanislas, le fondateur de Doctolib principal, a fait pendant très longtemps, c'est que commencer ses présentations mensuelles par les nouvelles recrues, pas par les ventes.
Okay.
En expliquant qui avait contribué positivement, hein, il ne s'agissait pas de d'être négatif pour ceux qui n'avaient pas fait de cooptation, mais en mettant vraiment en avant ça et de manière très régulière en fait.
Ok, donc déjà c'est une best practice utilisée par une licorne française, donc peut-être que ça marche quoi. Enfin, je veux dire. Bah, ça marche.
En fait, faut pas le dire une fois, quoi.
D'ailleurs, un format.
Ça fait partie. Ça peut faire partie des trois KPI de suivi d'une entreprise, quoi.
Ok.
La satisfaction des clients, combien de personnes on a réussi à aller chercher autour de nous et les ventes, par exemple.
Ok. Prends la dernière question, chat. S'il y avait une erreur, on a l'impression que ton livre, il est processé, tu fais plus d'erreurs, etc. C'est quoi les erreurs les plus communes sur lesquelles, franchement, il faudrait juste…
Non, mais… énorme modestie sincère sur le recrutement. C'est, moi, j'ai pas… Et d'ailleurs, mon livre, il mérite déjà une deuxième version parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai progressé sur les derniers mois.
Cool.
Notamment en allant écouter tout le monde, enfin en intervenant, en écoutant. Et ça reste humain, ça reste très difficile. Les erreurs, elles sont fréquentes et elles viennent souvent de nous, hein, c'est pas les candidats. Mais ça rend aussi l'exercice passionnant. Hein. L'erreur la plus fréquente, je pense qu'il y en a une. Alors pour le coup, moi j'ai été dedans, les deux pieds dedans, longtemps. Et peut-être que je l'ai toujours d'ailleurs. On parle souvent des biais cognitifs. Ça peut être sur les hommes et les femmes, voir différemment. Ça peut être ça. Ça peut être beaucoup d'autres choses.
On parlait de l'effet halo hier, une personne qui est estampillée, grande école, on le recrute, on lui donne toutes les vertus parce qu'elle a fait grande école. Ça, c'est le pire, une des choses qui est compliquée.
Ne prenez pas non plus les formations ou les anciennes expériences pour argent comptant. Moi, je pense que ma plus grosse erreur, elle était moins là-dessus parce que moi, les grandes écoles, c'est très bien, mais pour moi, ce sera les mêmes batteries de tests que quelqu'un qui n'a pas fait de grande école. Mais je pense que là où je me suis fait, mais inconsciemment, abuser trop longtemps, c'est sur les grands noms. Cette personne était chez Google, elle doit être analytique. C'est pas totalement illogique de penser ça. Quelqu'un qui était chez Google ou Amazon, c'est des boîtes qui sont hyper puissantes, extraordinaires, des monstres de perfectionnement, etc. Ben, oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, ces boîtes-là aussi n'ont pas que des personnes qui... Il y a aussi des personnes qui se sont retrouvées à la bonne place au bon moment, qui se sont laissées un peu porter par tout ce qu'il y avait autour. Et ça, c'est vraiment une erreur. Donc, vous, dans vos secteurs, start-up, PME, entreprise, si vous avez la superstar du coin, là, où vous dites, oui, là-dessus, ils sont tous bons. Non, il n'y a pas d'entreprise où tout le monde est bon. Et puis, en plus, ça dépend de vous, vos attentes, et qui peuvent être un peu différentes. Donc, ne baissez pas la garde en fonction de choses qui peuvent être des biais cognitifs, qui peuvent être liés au parcours des gens, à leur attitude ou à leur... hommes, femmes, etc., hein, qui peuvent être des vrais sujets, mais essayez d'être traiter tout le monde pareil. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais ça peut être franchement sur les qualités qu'on associe par exemple aux entreprises, c'est quand même des biais qui sont assez fréquents.
Ok, ouais, je fais la passe à du coup pareil sur le podcast de Robin. Il a interviewé la patronne de Obibi, je crois, et à ce moment-là, ils prennent le temps de décortiquer tous les biais cognitifs. Ok, dans quel panneau on va tomber. Et à chaque fois, c'est assez spectaculaire, mais bon, c'est vrai que ça fait partie du jeu aussi. Bon, en tout cas, écoutons, on est arrivé à la fin de l'interview. Encore des questions, mais il est midi, donc on va laisser le temps finir cette interview-là. C'est super comme ça. Merci infiniment de t'être prêté au jeu.
Eh bien, j'étais ravi.
Merci pour toute la valeur et puis à très bientôt.
Antoine. Eh bien, merci pour tes questions.
À très bientôt.
Au revoir tout le monde.
À bientôt.
C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.